Jésus, pour sa part, continuait sa route, entouré d'un petit groupe de fidèles, bousculant les préjugés, allant aux plus démunis, n'hésitant jamais à risquer réputation et notoriété pour sauver ce qu'il appelait les brebis de son troupeau. Au grand étonnement des puristes, il fréquentait sans distinction les publicains, samaritains et pêcheurs publics. On racontait même que parmi ses apôtres, il avait un ancien collecteur d'impôts, un de ses collaborateurs qui acceptait, moyennant copieuses compensations, de prélever les taxes au profit des occupants romains. Pour le Nazaréen, il n'y avait rien ni personne d'impur ou d'indigne. À tous, il proposait le royaume de son père. À tous. Même aux païens, venus de la lointaine Rome. Caius était de ceux-là. Il ne comptait plus les campagnes qu'il avait promenées de la Dalmatie à la Germanie en passant par la Gaule et bien d'autres lieux plus obscurs. Il en avait connu des peuples divers, aux coutumes bizarres. Mais avec les Juifs, il allait de surprise en surprise. Il sentait en eux une curieuse dimension religieuse sans rapport avec les cultes dont il avait pu observer les manifestations au cours de ses voyages. Il y avait ici quelque chose qui l'intriguait profondément. Sarah, la femme avec laquelle il vivait à Capharnaüm, était du pays. Elle lui avait raconté bien des choses de l'histoire d'Israël et quand son esclave bithynien se mit à vomir du sang, elle lui dit « Mais demande donc au Nazaréen de le guérir, il est en ville depuis 3 jours et il fait de nombreux miracles. » Pour Caius, Zaphor n'était un esclave que sur le parchemin. Il l'aimait comme un fils. Et le vrai exsangue sur son lit l'avait bouleversé. Le centurion n'avait donc pas hésité un seul instant. Il aurait payé n'importe quoi pour que Zaphor guérisse. Après avoir fait un rapide tour de ville, Caius aperçut Jésus qui parlait au milieu d'un petit groupe d'hommes. La vue d'un uniforme romain créa un rapide début de panique. En un instant, le centurion embarrassé se retrouva sans intermédiaire devant le Nazaréen.
« Excuse-moi, Seigneur, de t'importuner, mais c'est pour une faveur. Mon serviteur, presque mon fils, est en train de mourir. On m'a dit que tu pouvais tout. Alors certainement, tu peux le guérir. »«
Allons vers lui, je te suis. »«
Oh non, Seigneur, je t'en prie, ne te dérange pas. Ma maison n'est pas digne de te recevoir. Dis seulement un mot, et mon serviteur guérira. J'ai eu du mal, tu sais, à devenir ce que je suis. » J'ai dû me battre, transpirer, aller de l'avant par tous les temps. Cependant, maintenant, avec mon grade, quand je dis à un soldat « fais ceci », il le fait sans discuter. Non, non, maître, parle seulement, et ce que tu voudras se réalisera.
En vérité, une foi comme celle-là, je ne l'ai jamais trouvée en Israël. Tu peux rentrer chez toi, ami. Ton serviteur est guéri parce que tu as cru.
Caius eut du mal à se détacher de ce regard profond qui en un instant l'avait apprécié, sondé. Il courut vers sa maison. À peine en avait-il franchi le seuil qu'une servante se précipita sur lui toute joyeuse.
Il est guéri! Zaphor est guéri! Il y a une demi-heure, on le voyait s'étouffer, s'essouffler, quand tout à coup, il est redevenu calme. Il nous a parlé. Quelqu'un en ce moment lui donne à manger? Car il avait faim.
Caius ferma les yeux. Son âme simple venait de comprendre que ce Messie dont Sarah lui avait parlé était bel et bien arrivé. Il était Nazaréen et s'appelait Jésus. Désormais, la vie ne serait plus jamais la même. À l'amour, il faudrait répondre par l'amour, quoi qu'il en coûte. En Caius, le Romain, Marie-Madeleine, la femme perdue, l'aveugle de naissance, la petite fille de Jaïr et bien d'autres, s'était réalisé le projet dont Jésus avait fait la charte de sa mission au milieu des hommes. Les pauvres entendaient la bonne nouvelle. Trois années d'une existence donnée. Le Nazaréen avait pu tout connaître, l'adulation des foules, mais aussi la critique et la jalousie des puissants, les tentatives de corruption et de récupération politique, la panoplie complète de ce que le monde, royaume du malin, met à la disposition des âmes petites, afin de tenter de les convaincre de faire son jeu. Du malin, Jésus avait su détecter toutes les manifestations, maladies étranges, possessions proprement dites, sans parler des désirs mauvais et des regards torts qui sont le signe de la présence du prince des ténèbres. Depuis des semaines, l'homme de Nazareth sentait s'épaissir autour de lui brouillard, complots, chuchotements ironiques, tous ces gestes manqués qui montraient que quelque chose était irrémédiablement rompu et qu'il faudrait sous peu payer très cher la mise à nu des hypocrisies, les appels au partage et surtout la prédication d'un royaume dans lequel seuls les humbles avaient droit de citer.
Le monde vous haïra. Ne m'a-t-il pas haï le premier? Si vous étiez du monde, ami, le monde vous aimerait, car vous seriez semblable à lui. Mais vous n'êtes pas du monde. Alors le monde vous déteste, très précisément parce que moi je vous ai choisi. Un jour, vous vous en souvenez, je vous ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Eh bien, soyez sûr que l'on vous persécutera comme on a tenté de me nuire. Vous souffrirez cela à cause de moi. Et pourtant, comme j'ai parlé clair, ils sont peu nombreux ceux qui ont compris que j'étais envoyé par le Père. Malheureux les hommes qui, en me haïssant, haïssent aussi Dieu. Je ne veux rien vous cacher. Vous serez chassés des synagogues. Et l'on arrivera même à vous supprimer en croyant faire plaisir à Dieu. Vos bourreaux réagiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni mon Père, ni moi. En vérité, je vous le dis, dans quelques jours, vous pleurerez. Vous vous lamenterez pendant que dehors on se réjouira. Mais tout ceci finira. Et votre peine se transformera en joie. Vous serez comme la femme enceinte qui sait qu'elle doit souffrir pour enfanter. Mais peu importe, ce qu'elle veut, c'est ce fils qui va naître. Elle oublie tout. Et la joie l'envahit quand on lui met dans les bras l'enfant tout palpitant de vie. Oui, vous devrez souffrir. Mais nous nous retrouverons et votre cœur éclatera de bonheur. Et ce bonheur, personne, vous m'entendez, ne pourra vous le prendre.
Seigneur, si tous t'abandonnent, moi je te resterai fidèle, même au prix de ma vie.
Mon pauvre Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié trois fois.
La fête des azimes, qu'on appelle la Pâque, allait se dérouler sous peu. Les anciens, les prêtres et les scribes se demandaient comment faire taire Jésus, le faire taire une fois pour toutes. Il y avait un obstacle. Le petit peuple qui lui avait fait une telle fête à Jérusalem quand il était entré, que la garnison romaine s'en était inquiétée. Avec ces juifs turbulents, on ne savait jamais. Pour les ennemis du charpentier de Nazareth, ce qu'il fallait trouver, c'était une occasion discrète, une occasion qui permettrait de le faire disparaître sans provoquer de réaction populaire violente. Ils ne furent pas peu étonnés de voir arriver, de nuit, un des apôtres du Nazaréen, un dénommé Judas Iscariote, qui proposait de livrer son maître. Ils lui firent de beaux discours. Ils le félicitèrent d'être fidèle à la loi de Moïse, ajoutant que pour l'aider dans son œuvre, il lui donnerait 30 pièces d'argent pour les frais de l'opération. Judas était loin d'être un méchant homme, mais avec Jésus, il était allé de désillusion en désillusion. Que restait-il du beau rêve du royaume d'Israël à rétablir? Il importait donc d'en finir avec des songes sans lendemain. Il fallait frapper, et frapper vite. Dans la ville haute, Les disciples de Jésus préparent la salle pour le repas pascal. Ils la décorent avec des branchages et mettent sur la table tout ce qui servira pour la célébration du jour de la liberté d'Israël. Jésus est entré depuis un instant. Son visage est grave. Quand tout est prêt, les 12 prennent place autour de leur maître. À son habitude, Jean s'assied à la droite de Jésus. Depuis le début de la vie ensemble, entre le jeune homme et le Nazaréen, a existé une amitié de prédilection que nul n'a jamais contestée.
Ami, j'ai désiré de toutes mes forces manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Je vous l'affirme, je ne la mangerai plus jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu. Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. Oui, et celui-là est parmi ceux qui mangent avec moi. Malheur à lui. Il eût mieux valu qu'il ne vienne jamais au monde.
Serait-ce moi, Seigneur ?
Non. C'est celui qui va tremper son pain dans le même plat que moi.
Judas n'a pas entendu la dernière phrase prononcée à voix basse. De fait, au moment où Jésus a voulu mettre quelques herbes amères sur le morceau de pain qu'il tenait entre ses doigts, l'Iscariote a fait de même. Leurs mains se sont touchées et Judas s'est senti mal à l'aise.
Judas, ce que tu as à faire, fais-le vite.
Quand l'Iscariote fut parti dans la nuit, Jésus prit du pain et après l'avoir béni, le rompit et le distribua à ses apôtres. Prenez, mangez ce pain. Il est mon corps, ce corps qui va être livré pour vous. Il prit ensuite la coupe, remplie de vin, et la leur donna. Le vin que vous buvez est mon sang, le sang de la nouvelle alliance répandu pour tous les hommes. Ce que j'ai fait maintenant, vous, vous aurez à le faire en mémoire de moi. Après le chant de l'hymne, le groupe se rendit sur le mont des Oliviers, dans un jardin appelé Gethsémani. Là, tandis que ses apôtres s'étaient assoupis, Jésus sentit s'abattre sur ses épaules toute la misère du monde. La peur et le dégoût l'envahirent, jusqu'à la nausée.
Mon âme est triste à en mourir.
S'étant avancé, il se jeta la face contre terre, et sa prière se fit gémissement.
Père, tout est possible. Je t'en prie, éloigne de moi ce calice. Cependant, que ce soit ce que tu veux qui arrive, et non pas ce que moi je veux.
Il est bien loin le multiplicateur des pains, le faiseur de miracles. Dans cette nuit sans lune, Jésus n'est plus qu'un homme qui regarde arriver sa mort. Une mort laide, aux orbites creusées. Une mort sordide, celle des esclaves et des descendants. Oui, elle est là, la faucheuse, avec son cortège de hurlements d'agonie, ses puanteurs de plaies purulentes et les déjections d'un dernier hoquet. Le Nazaréen voudrait fermer ses yeux, boucher ses oreilles, ne plus entendre la respiration haletante du monde qui se traîne. Une sueur froide et visqueuse coule sur son visage et le sang perle la commissure de ses lèvres. Dieu est devenu silence. La réalité qui demeure est le néant. Le néant. Et ce goût de cendre qui fait tordre la bouche quand arrive l'heure de tous les abandons. Le néant. L'absence du geste de l'ami. La certitude d'avoir été trompé. Oui, trompé. Le néant. La solitude. Le désert de l'amour. Rien. Absolument rien. À part le fiel du doute. Dans le fond du jardin, près de la murette en pierre sèche, des lueurs de torches percent la nuit, tandis que grandit la rumeur d'une petite foule. À sa tête, Judas l'Iscariote. Le bruit a réveillé les disciples de Jésus. Lui est déjà prêt. Le traître s'avance vers lui et l'embrasse. C'était le signe convenu. Alors deux soldats ligotent le Nazaréen. Pierre a commencé un semblant de défense, mais un regard de Jésus l'a convaincu qu'il fallait que tout s'accomplisse. Les autres disciples, pris de peur, ont déjà fui. Il est 11h du soir. On amène Jésus chez le grand prêtre qui l'attend, flanqué de tous les anciens du temple. L'objectif consiste à le mettre en situation fausse, à lui tendre le traquenard définitif, grâce auquel, avec bonne conscience, on le condamnera sans appel. Les questions fusent, insidieuses, perfides, sans trêve, toujours les mêmes. Jésus garde le silence, celui de l'homme libre qui sait très bien à quoi l'on veut en venir.
Je te le demande au nom de Dieu. Es-tu vraiment le Christ, le Fils du Béni?
Oui, je le suis. Et vous verrez tous le Fils de l'homme siégé à la droite du Tout-Puissant. Vous le verrez venir environné des nuées du ciel.
C'était le blasphème caractérisé. Le grand prêtre, en un geste grandiloquent, déchira sa tunique en hurlant.
Vous avez entendu cette affirmation horrible? Inutile de perdre notre temps à écouter des témoins. Ils méritent la mort.
Tous levèrent la main en signe d'assentiment. Dans la cour, près des murailles, un grand feu brûle près duquel se réchauffent serviteurs et amis du grand prêtre. Pierre est là aussi. Évidemment, l'unique sujet de conversation est l'événement qui se déroule dans la grande salle du haut de l'escalier. La foule, généreuse dans les louanges, l'est aussi dans l'abandon. Sa loi, c'est malheur aux vaincus. De Jésus, on ne retient plus que ce qui flatte l'ingéniosité du grand prêtre. Il a bien fait de mettre la main sur ce Nazaréen, il allait nous attirer des tas d'ennuis. Pierre intervient.
Mais il a fait des miracles! Il est l'ami du peuple et des pauvres!
Puisqu'on parle d'amis, il me semble bien te reconnaître. Tu étais avec Jésus, pas vrai? D'ailleurs, tu es galiléen, ton accent te trahit.
Par trois fois, violemment, Pierre affirme que tout est faux, que c'est Jésus, il ne l'a jamais vu. Alors, dans le lointain, un coq se mit à chanter. Ce bruit familier pénétra dans le cœur de Simon-Pierre comme un coup de poignard, sans qu'il puisse arriver à contenir ses sanglots. Il se vit tel qu'il était. Judas n'avait donc pas été le seul à renier le maître. Dans la chambre qui jouxte la salle du Grand Conseil, c'est la fête de la mesquinerie et de la pusillanimité humaine. Les valets du Sanhédrin, sûrs de leur bon droit, ont trouvé dans la personne de Jésus un jouet sans défense qui ne proteste même pas quand on lui crache au visage. Jean, le disciple aimé, bouleversé, suit la scène à travers une meurtrière. Il se sent impuissant devant cette explosion de mépris et de bassesse. À travers l'expression humiliée de son maître, apparaît celle du serviteur souffrant décrit par le prophète Isaïe. Alors Jean se redit à lui-même le poème de la souffrance universelle.
Voici mon serviteur. Son apparence n'est ni belle ni susceptible d'attirer les regards. Il a été méprisé par les hommes, l'objet des moqueries de leur bouche. Homme des douleurs, il ne se dérobe pas à ceux qui lui arrachent la barbe, et pourtant, ce sont nos péchés qu'il accepte de porter. Il a voulu se charger de toutes nos douleurs. Nous, dans notre inconscience, nous nous sommes dit, c'est Dieu qui l'éprouve et le frappe. En fait, tout ce qu'il endure, c'est pour retenir la main du Très-Haut sur les immondices de nos turpitudes. Être châtié nous aurait remis sur le chemin du bien. Il s'est interposé et les plaies qui meurtrissent sa chair nous apportent la guérison. Regardez-le, faible et vulnérable comme la brebis entre les mains de ceux qui l'attendent. Il garde le silence.